Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. La France dans l'attente d'un reconfinement et des annonces présidentielles, arbitrage en cours et allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Ce ne sera sans doute pas les mêmes modalités qu'au printemps, mais les médecins et les autorités de santé alertent sur l'urgence d'un coup de frein à l'épidémie. Dans un instant, le point complet sur les discussions en cours, la situation dans les hôpitaux et ce qui a changé ou pas en France entre la première et la deuxième vague. Invité d'Europe Midi, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. Dans l'actualité également, les excuses du Qatar pour les examens gynécologiques forcés subis par plusieurs femmes à l'aéroport de Doha. Les Parisiens dans le bain turc. Le PSG joue ce soir à Istanbul dans le fief du président Erdogan. Et puis on vient d'apprendre la mort du linguiste Alain Rey, figure tutélaire du dictionnaire Le Robert. Alain Rey avait 92 ans.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
523 morts en une seule journée pour cause de Covid, 288 décès à l'hôpital, 235 en EHPAD. Les derniers chiffres publiés hier soir claquent comme un dur rappel à la réalité et à une situation que la France n'avait pas connue depuis avril. Et combien de morts prochaines parmi les 2900 malades désormais en réanimation. Le bilan humain de cette deuxième vague s'annonce déjà très lourd, quelles que soient les décisions qui seront annoncées ce soir, ce matin sur Europe 1. Cri d'alarme du président de la commission médicale de la PHP, le professeur Rémi Salomon.
Au vu de la situation dans les hôpitaux, sur l'ensemble de la France, ce qui est différent de la première vague, là c'est partout, à des degrés divers, mais c'est partout, c'est grave, très très grave dans certaines régions, c'est grave un peu partout, c'est très grave en région Île-de-France. Donc au vu de ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux, on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, il faut faire un coup de frein drastique à la circulation du virus. On ne peut pas tenter autre chose et se dire on va attendre 2-3 semaines pour voir si ça marche ou pas. Là, il faut vraiment faire le maximum.
Le professeur Salomon de la PHP avec Mathieu Béliard. Alors, quel coup de frein, de quelle ampleur, école, entreprise, commerce, ouvert ou fermé, et pour combien de semaines? Adrien Becht, les décisions sont en ce moment même sur la table du Conseil des ministres au Palais de l'Élysée.
Oui, Conseil des ministres d'ailleurs élargi à l'ensemble du gouvernement, ministre, ministre délégué, secrétaire d'État, c'est suffisamment rare pour être souligné. La piste privilégiée toujours, c'est un confinement, mais pas aussi fort que celui de mars. Et c'est bien l'objet des discussions du jour qui ont lieu en ce moment même et qui ont eu lieu un peu plus tôt ce matin en Conseil de défense. Où placer le curseur? Plusieurs sujets à trancher. Le premier d'entre eux, bien sûr, les écoles. Quel protocole? Et est-ce que les lycées, par exemple, peuvent être logés à la même enseigne que les collèges ou les écoles primaires? Sur les services publics, comment les maintenir ouverts, car c'est bien la volonté de l'exécutif? Et puis, sur le commerce, Bercy, par exemple, pousse pour en garder le maximum ouvert. On sait qu'Emmanuel Macron espère toucher le moins possible à l'économie. Donc, est-ce que, par exemple, les coiffeurs pourraient rester ouverts? À ce stade, on entre dans la dentelle, me confiait tout à l'heure un conseiller. Il va falloir maintenant atterrir rapidement, puisqu'Emmanuel Macron veut pouvoir aller dans le détail dès ce soir, avant une possible conférence de presse du Premier ministre demain pour décliner encore les mesures.
Adrien Becht en direct de l'Élysée pour Europe 1. Terrible recommencement pour beaucoup de Français effrayés par les dégâts économiques et psychologiques d'une nouvelle mise sous cloche et déprimés de subir une telle épreuve de façon, à la façon d'un jour sans fin. Et pourtant, Victor Delande, même si c'est le même virus et la même maladie, la gestion de cette deuxième vague sera forcément différente de la première.
Oui, la courbe de la première vague ressemble à s'y méprendre avec celle de la deuxième, mais il y a des différences notables entre ces deux périodes. La première de taille concerne la prise en charge des malades. En mars-avril, les services de réanimation découvraient tout. Aujourd'hui, ils ont davantage de certitudes. Les médecins administrent plus rapidement des corticoïdes, des anticoagulants efficaces pour lutter contre les symptômes du virus. Et puis, les spécialistes essaient de ne pas systématiser le recours aux respirateurs artificiels qui causent de gros ravages sur l'organisme et notamment sur les poumons. Ils privilégient désormais l'oxygénation à haut débit. Autre différence avec la première vague, cette fois-ci, toute la France, ou presque, est touchée. En mars-avril, seul le Grand Est et la région parisienne avaient été frappés de plein fouet. Oubliez donc les renforts de soignants d'une région à l'autre. Chacun sera dans son hôpital. Notons quand même certaines ressemblances entre les deux vagues qui ne sont pas de nature à nous rendre optimistes. On est encore aveugle sur les chiffres. Les contaminations largement sous-évaluées à cause d'un dépistage trop mal ciblé. On ne sait toujours pas non plus précisément comment et où on se contamine. Dans l'urgence, une seule solution, faire bloc à l'hôpital. l'hôpital. Et là, il manque encore plus de bras que lors de la première vague. Les soignants le crient depuis des mois. Ils nous le disent, ils vont se retrousser les manches. On les applaudira sans doute à nouveau. Aujourd'hui, ils réclament davantage de moyens plutôt que la reconnaissance des Français à 20h.
Victor Delande, oui, l'hôpital inquiétude au plus haut. La Fédération hospitalière de France parle d'une submersion du système de santé. Un exemple parmi d'autres, à Lyon et dans le département du Rhône, une brusque aggravation de la situation depuis le week-end. Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon.
Oui, les chiffres font froid dans le dos parce qu'ils rappellent la pire période de la première vague. On a aujourd'hui dans tous les hôpitaux du Rhône 1232 patients Covid pris en charge, alors qu'ils étaient 1250 le 5 avril dernier, date du pic des hospitalisations dans le département. 18 patients de différence seulement. Le 5 avril, il faut se remémorer, on était 3 semaines après le début du confinement. C'est seulement après cette date que le total avait commencé à tout doucement diminuer. Hier, il y a eu 185 nouvelles hospitalisations dans le département. On peut donc craindre que dès ce soir, on dépasse ce fameux pic d'avril. Parmi les établissements où les chiffres explosent, il y a évidemment les hospices civils de Lyon, comme le confirme le professeur Olivier Clarisse, chef du service de réanimation néonatale.
La situation est vraiment préoccupante et très tendue. Il y a un afflux de patients à l'hôpital et donc forcément une augmentation du nombre des admissions dans les secteurs réanimation et soins continus. Alors aujourd'hui, il y a 201 lits d'occupés, un peu plus de la moitié par des patients atteints du coronavirus. Normalement, notre capacité standard, elle est de 139, qu'on a augmenté pour la troisième fois par palier successif. Donc c'est la troisième augmentation qui permet d'arriver à 201, en sachant qu'au maximum de la crise de mars-avril, on était arrivé à un peu plus de 270. On s'en rapproche indiscutablement.
Voilà, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore. Et c'est le tout petit motif d'espoir du moment. Le nombre de patients en réanimation reste nettement moins important qu'au printemps, 192 contre 304 à l'échelle du Rhône. Cela veut dire qu'on prend mieux et plus vite en charge les patients, mais cela ne pourra tenir indéfiniment, d'où la nécessité d'une mesure forte. Les soignants plaident évidemment pour un reconfinement.
Jean-Luc Boujon, à Lyon, pour Europe 1. Voilà ce qu'on peut dire sur la crise en France en cette mi-journée. Mais gardez l'écoute, parce que dans moins de 10 minutes, l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet sera notre invité. Il nous dira comment il voit l'évolution de l'épidémie et ce qu'il a recommandé à l'exécutif. Sachez encore que l'Allemagne envisage elle aussi des mesures drastiques. Fermeture pour un mois des restaurants, bars, théâtres, cinémas et installations sportives. Angela Merkel doit discuter aujourd'hui de ces mesures avec les Länder.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Suite du journal dans un instant, des examens gynécologiques imposés à des femmes à l'aéroport de Doha. Le Qatar s'excuse.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Violent et humiliant, 18 femmes en transit dans un aéroport, 18 passagères contrainte de subir un examen gynécologique. Ça s'est passé au Qatar au début du mois. Examen pratiqué après la découverte dans des toilettes d'un nouveau-né abandonné. Scandale. Mais ce matin, l'émirat a présenté ses excuses, Hélène Terzian.
Oui, le Qatar regrette la violation des libertés individuelles et la détresse infligée à ses voyageuses. Il tente tout de même une forme de justification en expliquant qu'il tentait, je cite, d'empêcher la fuite des auteurs d'un crime horrible. Mais il fait donc son mea culpa pour les faits qui se sont produits le 2 octobre dernier. Lorsqu'un nouveau-né prématuré est découvert dans les toilettes de l'aérogare, des agents font descendre des passagères de plusieurs avions. Elles subissent alors de force des examens gynécologiques, des frottis, pour savoir si elles ont accouché récemment. D'après les autorités australiennes, ce sont 10 avions qui ont été ciblés, dont un à destination de Sydney. Au total, au moins 18 femmes ont subi ces examens. Et d'après un passager, elles sont revenues à bord en état de choc, certes en colère, toutes bouleversées. Parmi elles se trouvait une Française et 13 Australiennes. D'ailleurs, l'Australie affirme travailler avec d'autres États pour apporter une réponse diplomatique. Le Qatar promet désormais une enquête complète et transparente. Il faut le rappeler, le pays du Golfe mise beaucoup sur sa compagnie aérienne pour soigner son image à l'approche de sa Coupe du Monde de football en 2022.
Hélène Terzian, entre la France et la Turquie, ça ne s'arrange pas. Le président Erdogan ce matin dénonce les vauriens de Charlie Hebdo qui l'ont caricaturé cette semaine à la une. La Turquie annonce aussi des poursuites contre l'hebdomadaire. Mais ce soir, c'est à Istanbul que le Paris Saint-Germain joue son deuxième match de Ligue des Champions face au Başakşehir. C'est le fief historique d'Erdogan. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes tout près du stade et l'ambiance n'a rien d'un jour de Ligue des Champions.
Oui, aucune effervescence autour de ce modeste stade de 18 000 places. Les mesures sanitaires y sont en partie responsables, mais ce club de Başakşehir n'est pas forcément connu pour la ferveur de ses supporters. L'affluence moyenne ici, c'est 4 000 personnes, très loin des ambiances surchauffées qui entourent les autres clubs historiques d'Istanbul. Il y a bien quelques jeunes adolescents présents aux abords, frustrés de rester à la maison ce soir.
Il y a des grandes stars comme Mbappé et Neymar qui vont jouer juste là, mais je vais rater ça. Je suis hyper déçu. Ce n'est pas tous les jours qu'une grande équipe comme ça vient ici.
Car ici, l'histoire est encore jeune. Ce qui fait la renommée du Başakşehir tient dans son surnom FC Erdoğan. Ce sont des proches du président qui le financent. Le quartier sans âme qui entoure le stade est sorti de terre tout récemment et sert la politique sociale du président turc. En revanche, ceux qui attendent que ce match soit une caisse de résonance de la bataille diplomatique entre Emmanuel Macron et Recep Erdoğan risquent d'être déçus par un détail. Le Qatar, propriétaire du PSG, est aussi le grand allié de la Turquie dans la région.
Jean-Sébastien Sallaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul. Alain Rey n'est plus et c'est comme si plusieurs bibliothèques étaient parties en fumée. Alain Rey, c'était l'homme du dictionnaire Le Robert, linguiste, lexicographe, historien du vocabulaire et des dictionnaires. Il était malicieux, érudit, moderne. Il avait 92 ans et tout à l'heure, le comédien Stéphane de Groot, qui avait écrit, qui avait co-écrit un livre avec Alain Rey, lui rendra hommage dans le journal de 13h à suivre. Le temps, Anissa Haddadi, un département placé en vigilance.
Oui, il s'agit du Pas-de-Calais, Patrick, placé en vigilance orange pour forte pluie cet après-midi. Les averses se succèdent dans le nord-ouest et les pluies seront accompagnées parfois de coups de tonnerre et en plus du vent fort qui souffle sur toute la moitié nord du pays avec des rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h sur les côtes, 70 km/h dans les terres. Pour vous résumer la situation, de la Gironde aux Ardennes, pour toutes les régions qui se trouvent dans cette zone-là, eh bien, le vent va souffler fort cet après-midi. Sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central, du Jura et des Alpes du Nord, les pluies là sont plus soutenues, avec de la neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes. Ailleurs, eh bien, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies, une vraie journée d'automne, sauf au bord de la Méditerranée. En région lyonnaise et en Corse, où là, il fait très beau cet après-midi. Les températures sont douces, 13 à Aurillac, 15 à Paris, Limoges et Rennes, 16 à Clermont-Ferrand, 18 à Nice et 21 à Perpignan.
Merci Anissa.